Dans notre précédente causerie, nous avons présenté le projet général du programme autour de religion et politique en Quercy au XIXe et au XXe siècle. Nous avons dit combien au cours des différentes péripéties politiques que le pays et par conséquent notre diocèse et notre département ont connues, il y a eu ce que j'ai appelé parfois une parfaite entente entre religion et politique, ou au contraire, des moments où religion et politique n'ont pas fait bon ménage, pour employer une expression familière, et, à la limite, se sont affrontés de manière extrêmement violente. Le fait religieux, en effet, a joué et continue de jouer dans notre société contemporaine un rôle extrêmement important, voire parfois déterminant, dans les choix politiques des Français. Nous avons vu, dans un premier temps, comment, sous la Révolution, ce rapport entre religion et politique s'est noué. Il était pratiquement inexistant dans la masse du peuple sous l'Ancien Régime, avec l'union du trône et de l'autel. Désormais, le peuple a la parole. Et cette parole s'est exprimée dans les cahiers de doléances rédigés dans chaque paroisse de France et par conséquent quercinoise. Ces cahiers, dont nous avons une bonne collection en Quercy, et qui nous donne une image extrêmement forte de la situation des Quercinois à ce moment-là. Nous avons vu comment les députés du tiers-état, qui étaient au nombre de 6, sont allés à Paris pour la ouverture solennelle des États généraux le 5 mai 1789, et également les 3 membres du clergé que nous avons cités, l'évêque qui était pratiquement député ex-qualité, et 2 abbés, l'un l'abbé Hérol, curé de Reyrevigne, l'autre l'abbé Laïmarie, curé de Saint-Projet, de Saint-Privat, près de Montcuq. Dans ces cahiers de doléances, il n'y a pas d'attaque frontale contre la religion. Bien sûr, les gens peuvent être mécontents de payer la dîme, qui était depuis des siècles due au clergé, et qui en principe, mais souvent en principe seulement, devait servir aux œuvres de ce clergé au service de la population, puisque c'était des membres du clergé et des institutions ecclésiastiques, des communautés par exemple religieuses d'hommes ou de femmes qui tenaient les établissements de bienfaisance, les hôpitaux, les orphelinats, ainsi de suite. Après la messe solennelle à Cahors, à l'issue de laquelle les députés ont été désignés, il y a eu bien sûr le voyage à Paris. On connaît la suite. Les États généraux se proclament Assemblée nationale. Et il faut bien reconnaître que les députés du clergé quercinois ont voté contre. Alors que beaucoup de députés du clergé d'autres diocèses français ont voté pour, ce qui a permis d'ailleurs au tiers-état d'avoir la majorité et de faire qu'on ne parle plus d'états généraux, on parle d'assemblée nationale. Mais enfin, jusque-là, c'est une véritable idylle, le mot n'est pas trop fort, révolutionnaire, qui unit le clergé et la Révolution, mais à partir de ce moment-là, il va y avoir des changements brutaux et s'amorcer un véritable divorce entre la religion et la politique. Ce divorce qui va durer plus de 10 ans. Voilà au fond ce que nous allons développer tout de suite. Les réformes, et Dieu sait s'il y en eut dans ces premières semaines du travail de l'Assemblée constituante, les réformes furent acceptées, parfois de mauvaise grâce, mais enfin, elles furent acceptées par la majorité des députés du clergé. Par exemple, la dîme a été supprimée sans que cela entraîne trop de protestations. C'est l'époque également où est votée la Déclaration des droits de l'homme. Et on peut y voir dans cette déclaration une inspiration chrétienne, même si la référence chrétienne n'est pas explicitement formulée, il n'y a pas d'incompatibilité entre la Déclaration des droits de l'homme et la religion catholique traditionnelle. Dieu y est mentionné sous le vocable d'être suprême. On retrouvera cela plus tard. Et surtout, un des articles de cette Déclaration des droits de l'homme, extrêmement important, c'est « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. » Bon, cela pouvait faire allusion, évidemment, à toutes les tracasseries dont les protestants et les juifs avaient pu être l'objet au cours des siècles ou même des décades précédentes. Donc il semble que ça pouvait marcher entre religion et politique. Cependant, le climat s'était quand même bien dégradé. Et il se dégrade localement déjà au cours de l'été 1789. Il se dégrade au cours de cet épisode que l'on a appelé la Grande Peur, qui a vu dans les campagnes comme dans les villes des mouvements populaires sporadiques, violents, s'exercer sur de fausses nouvelles, notamment des nouvelles qui faisaient état de forces qui viendraient contrecarrer le déroulement de la révolution, des réformes, des nouvelles tout à fait fantaisistes. On parle de centaines de milliers de gens qui vont venir piller, qui vont venir massacrer. Tout ça est très irrationnel et ça a dégénéré beaucoup de violence. À Cahors, par exemple, l'évêché a été pris d'assaut par la foule. L'évêque terrorisé a dû chercher refuge dans le fond de ses appartements particuliers et on a réussi à faire sortir les émeutiers, il faut bien les appeler ainsi, qu'en leur livrant la cave. Il y a eu également des pillages, notamment la chartreuse de Cahors, qui était un établissement extrêmement riche, dont le plan se voit encore tellement aujourd'hui au centre de Cahors, cette chartreuse, le cours de la chartreuse, au sein de laquelle se trouve l'évêché actuel. Cette chartreuse a été pillée, et là aussi, il a fallu donner tout ce qu'il y avait dans les greniers, tout ce qu'il y avait dans la cave, Bref, c'est un climat qui n'est pas bon. Dans les paroisses, parfois, il y a aussi des manifestations récurrentes, des attaques de châteaux. Bon, ceci ne touche pas particulièrement la religion, mais par exemple, dans les églises de campagne, il y avait très très souvent, la plupart du temps, ce qu'on appelait le banc du Seigneur. Le banc du Seigneur, c'est-à-dire que le seigneur du village, puisque la société et le territoire sont divisés en seigneuries et nulle terre sans seigneur, on le savait, ces seigneurs qui étaient parfois des nobles, parfois ils ne l'étaient pas, ces seigneurs avaient un banc particulier, situé en général dans le chœur ou tout près du chœur de la chapelle ou de l'église, et symboliquement, souvent, les villageois se sont emparés de ce banc, l'ont jeté dehors et y ont mis le feu. Ça s'est produit couramment dans nos campagnes quercinoises. Cela montrait bien que, devant Dieu, il ne s'agissait plus d'inégalité sociale. Voilà des signes qui étaient évidemment inquiétants. Mais ce qui vraiment a contribué au fossé entre la politique et la religion, c'est une mesure du mois de novembre 1789, c'est la confiscation des biens du clergé. C'est une mesure nationale qui a été décidée pour combler le déficit énorme du royaume. En effet, le royaume s'était considérablement endetté pour soutenir son effort de guerre, notamment la guerre qui a vu l'indépendance des États-Unis, que nous avons soutenue en 1783. Et c'est bien pour remédier à la situation financière catastrophique du royaume que Louis XVI avait convoqué les États généraux. Par conséquent, il s'agissait bien d'indemniser tous les créanciers de l'État et de remettre ce que on peut appeler le budget de l'État en équilibre. Alors on a pensé pouvoir le faire en s'emparant des biens du clergé, qui représentaient évidemment beaucoup de richesses, de les mettre en vente et ainsi d'avoir de quoi indemniser et combler le trou financier énorme. Alors évidemment, c'était quand même très contestable, parce que la Déclaration des droits de l'homme avait dit que la propriété était un droit sacré. Or, voilà que l'on confisque les biens du clergé, sans demander évidemment leur avis aux propriétaires. Alors en Quercy, ce n'est pas très grave, parce que seulement 2% des terres appartenaient au clergé, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de répercussions sociales immédiates importantes. À titre de compensation, bien sûr, les membres du clergé qui perdaient leurs biens devaient être rémunérés par l'État, recevoir un traitement. Ils devenaient en quelque sorte des fonctionnaires. Ce qui ne plaisait pas forcément à l'ensemble du clergé. Mais il y a eu évidemment, dans les mois qui ont suivi, beaucoup plus grave. Au mois de février 1790, l'Assemblée nationale vote la suppression des vœux monastiques et des congrégations. Alors ça, c'est quelque chose qui, évidemment, était assez stupéfiant. Comment une assemblée purement civile pouvait, de son plein gré, supprimer des vœux monastiques, qui étaient une affaire strictement religieuse. Comment justifier une telle suppression ? Elle a été justifiée par le fait que ce vœu monastique était contraire à la liberté individuelle et que ceux qui les prononçaient, bien souvent, ne pouvaient pas mesurer la portée de leur engagement, étaient parfois forcés, ce qui n'était pas faux dans certains cas, bien entendu. Mais enfin, cette suppression a été dans l'ensemble très mal vue. Il faut dire que malgré tout, c'était grave parce que ça entraînait la suppression des congrégations. Les congrégations, les sœurs qui avaient, les religieuses qui avaient prononcé leurs vœux, ou des religieux, des ordres anciens comme les bénédictins, les dominicains, et les capucins, enfin bref, tous les ordres, qu'ils soient contemplatifs ou qu'ils soient mendiants, étaient donc supprimés. N'étaient conservées que les congrégations qui étaient au service des malades. Alors évidemment, ça c'est très logique, étant donné qu'il n'y avait pas dans le royaume un service public de bienfaisance, ou de soins, comme il en est dans nos états modernes, évidemment. Alors, vous voyez, on voit que, même s'il n'y a pas d'irréparable ou d'irrémédiable colère populaire, des sensibilités religieuses ont été heurtées par cette décision qui apparaissait vraiment à la fois arbitraire et contraire à tout ce que des siècles de vie religieuse avaient fondé dans le royaume de France. La véritable rupture s'est produite quelques mois plus tard, amenant le premier divorce entre religion et politique. C'est ce que l'on a désigné sous le nom de Constitution civile du clergé, qui a été votée en juillet 1790 par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une majorité des députés du tiers-État, bien entendu, quelques nobles libéraux, quelques membres du clergé aussi, c'était la majorité, donc par conséquent la loi est passée, il n'y a rien à dire. On peut dire à partir de ce moment-là que la monarchie absolue n'existe plus, évidemment. Cette constitution civile du clergé est un véritable séisme dans la vie de l'Église, qui va être bouleversée de fond en comble dans son organisation et dans son fonctionnement. Quelque chose d'absolument inimaginable et qui a véritablement saisi l'opinion publique et l'a immédiatement tranché. Désormais, en effet, les évêques et les curés n'étaient plus nommés par le roi, mais par les citoyens. Pas tous les citoyens d'ailleurs, uniquement les citoyens qui avaient le droit de vote, parce qu'on n'est pas encore au suffrage universel. Ne votent que les gens qui ont un certain revenu. C'est ce qu'on appelait les citoyens actifs. Et ces citoyens actifs devaient désigner les curés dans les paroisses et l'évêque à la tête du diocèse. Alors c'était quand même curieux parce que même les gens qui n'étaient pas catholiques, et il y en avait, des protestants notamment, qui sont désormais des citoyens comme les autres, pouvaient voter pour désigner l'évêque ou pour désigner les curés. Le clergé est payé par l'État, puisque les biens ont été confisqués, nous l'avons dit. Et surtout, ce clergé renouvelé par l'élection devait prêter un serment de fidélité à la nation, à la loi, au roi, montrant ainsi qu'ils adhéraient à l'ordre nouveau. Alors c'est un véritable coup de force, parce que tout de même la tradition était que dans le domaine religieux, il y avait toujours une négociation entre le chef de l'Église universelle, le pape. C'est ce qu'on appelait un concordat. Était-il légitime, en effet, que la puissance publique, civile, impose un changement dans l'ordre de la religion si contraire à la tradition et si nouveau? Dans l'esprit des députés, les choses n'étaient pas très nettes des fois. Il s'agissait pour certains de prendre une revanche sur le pape, comme on avait pris une revanche sur le roi. Il faut également noter l'influence des députés protestants, dont certains étaient ravis de pouvoir, en quelque sorte, régenter cette Église catholique qui leur avait manifesté tellement d'hostilité au cours des siècles passés. En tout cas, on peut dire que c'est une énorme maladresse, parce que désormais, religion et politique vont être opposées. Dans notre diocèse, l'évêque, Monseigneur de Nicolaï, refuse de prêter serment et quitte Cahors. Il est mort peu d'années plus tard, à Toulouse. Et le clergé, la masse de ces centaines de prêtres, plus de 800 curés, vicaires de campagne, est profondément divisée. Il y a ceux qui sont favorables à la Révolution, qui ont adopté les réformes, qui ont été enthousiastes en 1789. Ceux-là vont prêter serment, facilement. On les appelle les jureurs. Ils sont à peu près 42% dans l'ensemble du clergé. Des études tout à fait fiables ont été faites, qui permettent de montrer qu'ainsi il n'y a pas tout à fait la moitié, on est quand même assez loin de la moitié de ceux qui ont prêté, pour ceux qui ont prêté serment. Et c'est intéressant parce que dans ces 42%, on note 40% des curés et 48% des vicaires. Les vicaires traditionnellement étaient plus pauvres, étaient plus jeunes que les curés, dont il n'est pas étonnant qu'il y ait pratiquement la moitié des vicaires qui aient accepté de prêter serment. Il est intéressant de noter aussi que dans l'ensemble, ces jureurs ont été donc minoritaires, sauf dans le district de Cahors. Dans le district de Cahors, puisque le département, c'est-à-dire le diocèse, était divisé en districts, 60% des prêtres avaient prêté le serment, dont la majorité refuse le serment. Et quand le pape a condamné la constitution civile du clergé l'année suivante, le 13 avril, beaucoup de ceux qui avaient juré se sont rétractés. Voilà l'épisode essentiel qui a amené le divorce entre Église et entre politique et Église au cours de la Révolution.